Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. La France dans l'attente d'un reconfinement et des annonces présidentielles, arbitrage en cours et allocution d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. Ce ne sera sans doute pas les mêmes modalités qu'au printemps, mais les médecins et les autorités de santé alertent sur l'urgence d'un coup de frein à l'épidémie. Dans un instant, le point complet sur les discussions en cours, la situation dans les hôpitaux et ce qui a changé ou pas en France entre la première et la deuxième vague. Invité d'Europe Midi, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique. Dans l'actualité également, les excuses du Qatar pour les examens gynécologiques forcés subis par plusieurs femmes à l'aéroport de Doha. Les Parisiens dans le bain turc. Le PSG joue ce soir à Istanbul dans le fief du président Erdogan. Et puis on vient d'apprendre la mort du linguiste Alain Rey, figure tutélaire du dictionnaire Le Robert. Alain Rey avait 92 ans.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
523 morts en une seule journée pour cause de Covid, 288 décès à l'hôpital, 235 en EHPAD. Les derniers chiffres publiés hier soir claquent comme un dur rappel à la réalité et à une situation que la France n'avait pas connue depuis avril. Et combien de morts prochaines parmi les 2900 malades désormais en réanimation. Le bilan humain de cette deuxième vague s'annonce déjà très lourd, quelles que soient les décisions qui seront annoncées ce soir, ce matin sur Europe 1. Cri d'alarme du président de la commission médicale de la PHP, le professeur Rémi Salomon.
Au vu de la situation dans les hôpitaux, sur l'ensemble de la France, ce qui est différent de la première vague, hein, là c'est partout, à des degrés divers, mais c'est partout, c'est grave, très très grave dans certaines régions, c'est grave un peu partout, c'est très grave en région Île-de-France. Donc au vu de ce qui se passe en ce moment dans les hôpitaux, on n'a pas le droit à l'erreur. Maintenant, il faut faire un coup de frein drastique à la circulation du virus. On ne peut pas tenter autre chose et se dire on va attendre 2-3 semaines pour voir si ça marche ou pas. Là, il faut vraiment faire le maximum.
Le professeur Salomon de la PHP avec Mathieu Béliard. Alors, quel coup de frein, de quelle ampleur, école, entreprise, commerce, ouvert ou fermé, et pour combien de semaines? Adrien Becht, les décisions sont en ce moment même sur la table du Conseil des ministres au Palais de l'Élysée.
Oui, Conseil des ministres d'ailleurs élargi à l'ensemble du gouvernement, ministres, ministres délégués, secrétaires d'État, c'est suffisamment rare pour être souligné. La piste privilégiée toujours, c'est un confinement, mais pas aussi fort que celui de mars. Et c'est bien l'objet des discussions du jour qui ont lieu en ce moment même et qui ont eu lieu un peu plus tôt ce matin en Conseil de défense. Où placer le curseur? Plusieurs sujets à trancher. Le premier d'entre eux, bien sûr, les écoles. Quel protocole? Et est-ce que les lycées, par exemple, peuvent être logés à la même enseigne que les collèges ou les écoles primaires? Sur les services publics, comment les maintenir ouverts, car c'est bien la volonté de l'exécutif? Et puis, sur le commerce, Bercy, par exemple, pousse pour en garder le maximum ouvert. On sait qu'Emmanuel Macron espère toucher le moins possible à l'économie. Donc, est-ce que, par exemple, les coiffeurs pourraient rester ouverts? À ce stade, on entre dans la dentelle, me confiait tout à l'heure un conseiller. Il va falloir maintenant atterrir rapidement, puisqu'Emmanuel Macron veut pouvoir aller dans le détail dès ce soir, avant une possible conférence de presse du Premier ministre demain pour décliner encore les mesures.
Adrien Becht en direct de l'Élysée pour Europe 1. Terrible recommencement pour beaucoup de Français effrayés par les dégâts économiques et psychologique d'une nouvelle mise sous cloche et déprimé de subir une telle épreuve de façon, à la façon d'un jour sans fin. Et pourtant, Victor Delande, même si c'est le même virus et la même maladie, la gestion de cette deuxième vague sera forcément différente de la première.
Oui, la courbe de la première vague ressemble à s'y méprendre avec celle de la deuxième, mais il y a des différences notables entre ces deux périodes. La première de taille concerne la prise en charge des malades. En mars-avril, les services de réanimation découvraient tout. Aujourd'hui, ils ont davantage de certitudes. Les médecins administrent plus rapidement des corticoïdes, des anticoagulants efficaces pour lutter contre les symptômes du virus. Et puis, les spécialistes essaient de ne pas systématiser le recours aux respirateurs artificiels qui causent de gros ravages sur l'organisme et notamment sur les poumons. Ils privilégient désormais l'oxygénation à haut débit. Autre différence avec la première vague, cette fois-ci, toute la France, ou presque, est touchée. En mars-avril, seul le Grand Est et la région parisienne avaient été frappés de plein fouet. Oubliez donc les renforts de soignants d'une région à l'autre. Chacun sera dans son hôpital. Notons quand même certaines ressemblances entre les deux vagues qui ne sont pas de nature à nous rendre optimistes. On est encore aveugle sur les chiffres. Les contaminations largement sous-évaluées à cause d'un dépistage trop mal ciblé. On ne sait toujours pas non plus précisément comment et où on se contamine. Dans l'urgence, une seule solution, faire bloc à l'hôpital. Et là, Il manque encore plus de bras que lors de la première vague. Les soignants le crient depuis des mois. Ils nous le disent, ils vont se retrousser les manches. On les applaudira sans doute à nouveau. Aujourd'hui, ils réclament davantage de moyens plutôt que la reconnaissance des Français à 20h.
Victor Delande, oui, l'hôpital inquiétude au plus haut. La Fédération hospitalière de France parle d'une submersion du système de santé. Un exemple parmi d'autres, à Lyon et dans le département du Rhône, une brusque aggravation de la situation depuis le week-end. Europe 1 à Lyon, Jean-Luc Boujon.
Oui, les chiffres font froid dans le dos parce qu'ils rappellent la pire période de la première vague. On a aujourd'hui dans tous les hôpitaux du Rhône 1232 patients Covid pris en charge, alors qu'ils étaient 1250 le 5 avril dernier, date du pic des hospitalisations dans le département. 18 patients de différence seulement. Le 5 avril, il faut se remémorer, on était 3 semaines après le début du confinement. C'est seulement après cette date que le total avait commencé à tout doucement diminuer. Hier, il y a eu 185 nouvelles hospitalisations dans le département. On peut donc craindre que dès ce soir, on dépasse ce fameux pic d'avril. Parmi les établissements où les chiffres explosent, il y a évidemment les hospices civils de Lyon, comme le confirme le professeur Olivier Claris, chef du service de réanimation néonatale.
La situation est vraiment préoccupante et très tendue. Il y a un afflux de patients à l'hôpital et donc forcément une augmentation du nombre des admissions dans les secteurs réanimation et soins continus. Alors aujourd'hui, il y a 201 lits d'occupés, un peu plus de la moitié par des patients atteints du coronavirus. Normalement, notre capacité standard, elle est de 139, qu'on a augmenté pour la troisième fois par palier successif. Donc c'est la troisième augmentation qui permet d'arriver à 201, en sachant qu'au maximum de la crise de mars-avril, on était arrivé à un peu plus de 270. On s'en rapproche indiscutablement.
Voilà, on s'en rapproche, mais on n'y est pas encore. Et c'est le tout petit motif d'espoir du moment. Le nombre de patients en réanimation reste nettement moins important qu'au printemps, 192 contre 304 à l'échelle du Rhône. Cela veut dire qu'on prend mieux et plus vite en charge les patients, mais cela ne pourra tenir indéfiniment, d'où la nécessité d'une mesure forte. Les soignants plaident évidemment pour un reconfinement.
Jean-Luc Boujon, à Lyon, pour Europe 1. Voilà ce qu'on peut dire sur la crise en France en cette mi-journée. Mais gardez l'écoute, parce que dans moins de 10 minutes, l'épidémiologiste et membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet sera notre invité. Il nous dira comment il voit l'évolution de l'épidémie et ce qu'il a recommandé à l'exécutif. Sachez encore que l'Allemagne envisage elle aussi des mesures drastiques. Fermeture pour un mois des restaurants, bars, théâtres, cinémas et installations sportives. Angela Merkel doit discuter aujourd'hui de ces mesures avec les Länder.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Suite du journal dans un instant, des examens gynécologiques imposés à des femmes à l'aéroport de Doha. Le Qatar s'excuse.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Violent et humiliant, 18 femmes en transit dans un aéroport, 18 passagères contraintes de subir un examen gynécologique. Ça s'est passé au Qatar au début du mois. Examen pratiqué après la découverte dans des toilettes d'un nouveau-né abandonné. Scandale. Mais ce matin, l'émirat a présenté ses excuses, Hélène Terzian.
Oui, le Qatar regrette la violation des libertés individuelles et la détresse infligée à ses voyageuses. Il tente tout de même une forme de justification en expliquant qu'il tentait, je cite, d'empêcher la fuite des auteurs d'un crime horrible. Mais il fait donc son mea culpa pour les faits qui se sont produits le 2 octobre dernier. Lorsqu'un nouveau-né prématuré est découvert dans les toilettes de l'aérogare, des agents font descendre des passagères de plusieurs avions. Elles subissent alors de force des examens gynécologiques, des frottis, pour savoir si elles ont accouché récemment. D'après les autorités australiennes, ce sont 10 avions qui ont été ciblés, dont un à destination de Sydney. Au total, au moins 18 femmes ont subi ces examens. Et d'après un passager, elles sont revenues à bord en état de choc, certaines en colère, toutes bouleversées. Parmi elles se trouvait une Française et 13 Australiennes. D'ailleurs, l'Australie affirme travailler avec d'autres États pour apporter une réponse diplomatique. Le Qatar promet désormais une enquête complète et transparente. Il faut le rappeler, le pays du Golfe mise beaucoup sur sa compagnie aérienne pour soigner son image à l'approche de sa Coupe du Monde de football en 2022.
Hélène Terzian. Entre la France et la Turquie, ça ne s'arrange pas. Le président Erdogan ce matin dénonce les vauriens de Charlie Hebdo qui l'ont caricaturé cette semaine à la une. La Turquie annonce aussi des poursuites contre l'hebdomadaire. Mais ce soir, c'est à Istanbul que le Paris Saint-Germain joue son deuxième match de Ligue des Champions face au Başakşehir. C'est le fief historique d'Erdogan. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes tout près du stade et l'ambiance n'a rien d'un jour de Ligue des Champions.
Oui, aucune effervescence autour de ce modeste stade de 18 000 places. Les mesures sanitaires y sont en partie responsables, mais ce club de Başakşehir n'est pas forcément connu pour la ferveur de ses supporters. L'affluence moyenne ici, c'est 4 000 personnes, très loin des ambiances surchauffées qui entourent les autres clubs historiques d'Istanbul. Il y a bien quelques jeunes adolescents présents aux abords, frustrés de rester à la maison ce soir.
Neymar,
il y a des grandes stars comme Mbappé et Neymar qui vont jouer juste là, mais je vais rater ça. Je suis hyper déçu. Ce n'est pas tous les jours qu'une grande équipe comme ça vient ici.
Car ici, l'histoire est encore jeune. Ce qui fait la renommée du Başakşehir tient dans son surnom FC Erdoğan. Ce sont des proches du président qui le financent. Le quartier sans âme qui entoure le stade est sorti de terre tout récemment et sert la politique sociale du président turc. En revanche, ceux qui attendent que ce match soit une caisse de résonance de la bataille diplomatique entre Emmanuel Macron et Recep Erdoğan risquent d'être déçus par un détail. Le Qatar, propriétaire du PSG, est aussi le grand allié de la Turquie dans la région.
Jean-Sébastien Sollaini, envoyé spécial d'Europe 1 à Istanbul. Alain Rey n'est plus et c'est comme si plusieurs bibliothèques étaient parties en fumée. Alain Rey, c'était l'homme du dictionnaire Le Robert, linguiste, lexicographe, historien du vocabulaire et des dictionnaires. Il était malicieux, érudit, moderne. Il avait 92 ans et tout à l'heure, le comédien Stéphane de Groot, qui avait écrit, qui avait co-écrit un livre avec Alain Rey, lui rendra hommage dans le journal de 13h à suivre. Le temps, Anissa Haddadi, un département placé en vigilance.
Oui, il s'agit du Pas-de-Calais, Patrick, placé en vigilance orange pour forte pluie cet après-midi. Les averses se succèdent dans le nord-ouest et les pluies seront accompagnées parfois de coups de tonnerre et en plus du vent fort qui souffle sur toute la moitié nord du pays avec des rafales jusqu'à 90 voire 100 km/h sur les côtes, 70 km/h dans les terres. Pour vous résumer la situation, de la Gironde aux Ardennes, pour toutes les régions qui se trouvent dans cette zone-là, eh bien, le vent va souffler fort cet après-midi. Sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central, du Jura et des Alpes du Nord, les pluies là sont plus soutenues, avec de la neige à partir de 2000 mètres sur les Alpes. Ailleurs, eh bien, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies, une vraie journée d'automne, sauf au bord de la Méditerranée. En région lyonnaise et en Corse, où là, il fait très beau cet après-midi. Les températures sont douces, 13 à Aurillac, 15 à Paris, Limoges et Rennes, 16 à Clermont-Ferrand, 18 à Nice et 21 à Perpignan.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, la crise sanitaire et la perspective d'un reconfinement, on y retourne avec le diagnostic et l'ordonnance du professeur Arnaud Fontanet, membre du Conseil scientifique. Arnaud Fontanet, invité d'Europe Midi.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour professeur Arnaud Fontanet.
Bonjour.
Épidémiologiste, vous dirigez la task force de l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique. Je citais en début de journal tout à l'heure les derniers chiffres officiels, 523 morts en 24 heures, 3000 hospitalisations, comme début avril. Est-ce que c'est la même dynamique d'épidémie? Que disent vos projections?
Alors, ce dont on se rend compte actuellement, c'est qu'effectivement, c'est une dynamique très forte. On est sur des niveaux de nombre d'infections par jour, si on fait des extrapolations à partir de ces chiffres, qui sont très proches de ceux qu'on avait juste avant le confinement à la mi-mars. La seule différence, c'est que la dynamique est un peu plus lente parce que, bon, les gens se protègent. Donc, au lieu que ces nombres doublent tous les 3 ou 4 jours, ils doublent actuellement tous les 1 à 2 semaines. Mais ça reste une dynamique extrêmement forte.
Ça veut dire que, quelles que soient les décisions de ce soir, le système de santé sera submergé par un afflux de malades et que le bilan humain sera forcément très lourd?
Alors, il y a effectivement déjà des hospitalisations à venir et des passages en réanimation à venir contre lesquels on ne pourra pas faire grand-chose puisqu'il n'y a pas de traitement qui permette de les éviter. On sait quand même aujourd'hui mieux prendre en charge ces patients, mais pour ce qui est de la surcharge hospitalière, elle va être très forte puisque toutes les régions vont être concernées.
Donc il faut, comme le disait tout à l'heure le professeur Salomon, il faut un coup de frein, il faut des mesures de reconfinement. S'il y en a, quand pourrait-on en voir les effets?
Alors il faut effectivement des mesures très fortes et très vite pour effectivement freiner cette diffusion du virus. Les effets, les premiers effets, on les verra dans une semaine à peu près sans pouvoir les mesurer. On commencera à les mesurer à partir de 10 jours, notamment sur le nombre de nouvelles hospitalisations chaque jour. Ça, c'est un chiffre qui est fiable. Le chiffre des nouveaux cas est beaucoup plus difficile à interpréter parce que dès que les services de dépistage sont saturés, ils ne reflètent plus la réelle dynamique de l'épidémie et c'est probablement le cas aujourd'hui.
qu'est-ce qui vous semble le plus efficace compte tenu de ce qu'on sait, de ce qu'on ne sait pas sur les modes et les lieux de contamination? Qu'est-ce qu'il vous semble, d'un strict point de vue médical, important de fermer ou d'arrêter dans le pays?
Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement, et je vais y revenir, ce qu'on peut arrêter et fermer, mais il y a aussi ce que les gens peuvent faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il est plus que jamais extrêmement important de respecter les mesures barrières, d'éviter tout contact non protégé avec une personne qui n'est pas de votre entourage immédiat. Après, en dehors de ces gestes barrières et de l'aération des locaux, hein, qui est aussi quelque chose de très important, il y a effectivement des lieux qu'il va falloir fermer pour éviter des contacts entre personnes parce qu'ils s'y produisent et volontiers non protégés. Donc c'est tous les lieux un peu densément peuplés. Il y aura certainement donc des mesures autour de couvre-feu ou confinement. On ne connaît pas encore exactement ce que le gouvernement va choisir, mais qui feront qu'à partir d'une certaine heure, de toute façon, la vie va s'arrêter, en tout cas publique, hein. Et puis après, il y aura des lieux, alors là, je ne sais pas où le curseur va être mis, il y a des lieux qu'on gardera ouverts, qui sont des lieux essentiels d'alimentation, des services publics essentiels. Et puis après, sur les autres lieux, ils pourront éventuellement rester ouverts, mais dans ces cas-là, ça demandera aux personnes qui déjà tiennent ces lieux de s'assurer que les mesures barrières sont au mieux respectées, parce que c'est la seule façon de les garder ouverts. Et puis à chacun, comme je le disais au début, d'être très discipliné, parce que c'est vraiment l'affaire de tous pour éviter de retomber dans la crise majeure qu'on a eue en mars, et on n'est déjà pas très loin de cette crise majeure.
Et pour les écoles, qu'en est-il de ce débat en apparence toujours pas tranché scientifiquement sur les établissements scolaires avant la rentrée prévue lundi prochain?
Alors les écoles, c'est un des sujets les plus complexes, parce que ce qu'on a pu observer, c'est que notamment dans les crèches et les écoles primaires, il n'y a pas d'épidémie visible, hein, parce que les enfants font des formes très peu symptomatiques. Donc on n'a pas la possibilité même de se rendre compte à quel point le virus circule. Il circule probablement. Une bonne nouvelle, c'est que les enquêtes qui ont pu être faites auprès des enseignants, qui sont les premiers exposés, montrent que les enseignants n'ont pas des taux d'infection plus élevés que le reste de la population. Donc probablement, il y a peu de passages des enfants aux enseignants. En revanche, il peut y avoir des passages vers les familles. Donc un enfant qui serait d'âge école primaire ou de crèche et qui a des symptômes, eh bien, il faut s'en protéger d'une certaine façon. Et là, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en place quand on est dans la cellule familiale. Mais sur les écoles primaires, la plupart des pays européens, si je dois m'y référer par exemple avec des pays qui connaissent la même crise que nous, vont probablement les garder ouvertes. Mmh. La question plus difficile, c'est les collèges et les lycées, parce que là on sait que le virus y circule, que les enseignants peuvent être touchés, que les collégiens et les lycéens, ces adolescents, ils sont comme des adultes finalement en termes de susceptibilité à l'infection et de contagiosité pour les autres. Donc soit on peut les garder, mais peut-être en s'assurant vraiment de respecter les distances physiques, ça veut dire aussi probablement limiter les effectifs par endroit, et puis surtout que ces adolescents qui sont capables de respecter les gestes barrières soient conscients eux-mêmes de l'importance de le faire, et notamment les rassemblements avant et après de rentrer par exemple au collège ou au lycée, ça c'est des choses où il faut être extrêmement prudent.
Reconfinement, restrictions renforcées, combien de temps? C'est aussi l'autre question. Est-ce qu'il vaut mieux un confinement strict de 2 ou 3 semaines ou des restrictions plus souples qui permettent de maintenir la vie économique pendant un mois et demi?
Alors le dilemme, c'est que finalement, il est quasi évident que de taper fort au début est la meilleure stratégie pour ce qui est de contenir l'épidémie, quitte à ce qu'on puisse relâcher un peu plus vite les mesures une fois qu'on a fait redescendre le niveau de circulation virale. Mais il y a ce qui est acceptable à la fois pour les Français et pour les entreprises. Et c'est là qu'il faut vraiment trouver les bons compromis, parce que tout ce qu'on fera pour laisser quand même l'économie respirer un peu, hein, parce qu'elle en a besoin, risque de prolonger la durée de ces mesures qu'on mettra en place. Donc c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver entre taper fort, qui est absolument nécessaire pour casser la dynamique de l'épidémie, et ne pas étouffer complètement l'économie. Et c'est vraiment un exercice très difficile, où là encore, je pense qu'il faut qu'on ait la compréhension de tous, parce que taper trop peu au début ne ferait qu'entraîner une situation qui serait dans la durée et nécessiterait éventuellement des mesures de plus en plus fortes par la suite. Donc voilà, il faut vraiment être conscient de ça et trouver le meilleur équilibre.
Oui, ce qui pose déjà la question du déconfinement, parce que aussitôt les mesures levées, le virus va recommencer à circuler, comme ça s'est produit au début de l'été. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, non?
Oui, c'est toute la difficulté qu'il y a aussi dans un bord. Déjà, c'est un moment très dur. Et je comprends que pour les Français, d'entendre tout ça soit extrêmement démoralisant. Après, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on est là dans la durée, parce que malheureusement, on rentre dans la période hivernale. Et ce qu'on vit aujourd'hui a probablement été aggravé par le coup de froid qu'on a eu fin septembre, qui a duré qu'une semaine, mais qui vraiment a donné, non seulement sur la France, mais sur l'ensemble de l'Europe, vraiment une reprise de l'épidémie. Et donc, comme on rentre dans une période hivernale, il ne faut pas s'attendre à ce que le virus nous laisse la moindre chance dès qu'on sortira de confinement. Donc la sortie du confinement, elle devra se faire prudemment, comme on l'avait fait en mai et juin. En juin, vraiment, on avait encore un contrôle du virus. C'est pendant l'été, malheureusement, que les choses se sont aggravées. Et donc, c'est cette même attitude qu'il faudra savoir garder en sortie de confinement pour préserver tous les gains qui auront pu être faits pendant le confinement sur la circulation du virus.
Arnaud Fontanet, ce que beaucoup de Français ne comprennent pas, c'est comment on en est revenu à la situation du printemps avec des comportements qui sont très différents, avec un port de masque qui, malgré tout, semble très largement respecté.
Alors c'est vrai qu'on voit bien que le port de masque est respecté. Je pense aussi que l'hygiène des mains, les gens ont bien compris qu'il ne s'agit pas simplement d'un port de masque, mais de l'hygiène des mains, de maintenir une distance physique, d'avoir une fois de plus l'aération des locaux. Je le répète encore parce que c'est quelque chose qui a peut-être été moins entendu. Ce qui, là sans qu'on ait vraiment les données pour le dire, mais nous semble pas vraiment fonctionner, c'était la diminution des contacts au sein de la cellule familiale, les amis. Alors, il ne s'agit pas du tout de culpabiliser les gens ici. On n'est vraiment pas dans cette démarche parce que pour l'instant, on a besoin d'être tous solidaires et d'avancer. Mais c'est de restreindre les contacts non protégés qui, quand même, pour beaucoup, ont vraisemblablement eu lieu au sein de la cellule familiale ou avec ses amis. Et c'est là qu'il faut qu'on avance ensemble pour tenir le coup dans les semaines qui viennent.
Un dernier mot, Arnaud Fontanet. Le Conseil scientifique a régulièrement produit des alertes depuis juillet sur les risques d'une deuxième vague. Est-ce que vous vous reprochez aujourd'hui de ne pas avoir crié assez fort ou est-ce que vous reprochez aux décideurs ou aux Français de ne pas vous avoir assez écouté?
Alors franchement, je ne suis pas du tout dans une attitude aujourd'hui de qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, etc. Parce que je suis dans une attitude très combative par rapport à ce qui nous attend. C'est pour moi la priorité. Effectivement, nos messages ne sont pas passés. Peut-être qu'on n'a pas su communiquer sur ces messages. Après, c'était très difficile. Rappelez-vous, début septembre, les gens revenaient de vacances, n'avaient vraiment pas envie d'entendre parler de ce nouveau coronavirus. Il y a eu des informations qui ont circulé dans les médias qui étaient très erronées sur ce qu'était la dynamique de l'épidémie et qui n'ont fait qu'ajouter de la confusion dans l'esprit des gens. Mais voilà, on tourne la page, on se concentre sur ce qui nous attend parce que c'est vraiment la priorité.
Merci professeur Arnaud Fontanet, merci d'avoir été en ligne avec nous.
Merci beaucoup de m'avoir invité, au revoir.
Midi, Patrick Cohen.
Et l'information continue dans un instant sur Europe 1 avec le 13h de Christophe Lamarre. Puis la France bouge, bonne journée à l'écoute de nos programmes.